Micro Méga,
Patrick Chompré,
Jean-Yves Casga.
Bonjour, nous revoilà, c'est la troisième partie de Micro Méga et c'est avec vous Jean-Yves Casga, bonjour.
Bonjour Patrick.
Ça va bien ?
Bah plutôt pas mal, oui.
Bon,
surtout aujourd'hui.
Et oui, on avait parlé d'une interview multifacette la fois dernière, on va la voir.
Ah ça, les multifacettes, ça joue le dé.
Il s'agit donc de montrer les autres facettes d'une personnalité scientifique.
Micro Méga.
Alors, notre invitée, bon, elle était scientifique, l'est-elle toujours ?
Alors, on pourrait dire que elle a une sorte d'abonnement à Micro Méga, hein, mais on aurait pu ne jamais la voir. Parce qu'elle aurait pu rester à Oxford ou au CERN, où elle a beaucoup étudié, parce que, quand même, un doctorat de physique nucléaire et des particules, ça court pas les rues. Et puis, on aurait pu la perdre aussi, parce que en fin de compte, elle aurait pu commenter l'athlétisme avec brio. C'est une fan de Usain Bolt, parce que...
On reste dans la physique nucléaire.
Oui, mais elle, en éducation physique, on va dire plutôt en course à pied et toutes les disciplines du saut, il est arrivé que le stade Léo Lagrange retentisse de hurrah, parce que quand elle était plus jeune, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, elle courait très très vite. 19 au bac en gym, hein, quand même, pour une polarde, une qui fait des thèses de physique.
C'est vrai.
C'est équilibré. Et en même temps, c'est une personne assez saine, hein, parce que quand elle était petite, elle faisait nager ses poupées. Donc, c'était pas genre garçon manqué, c'était aussi. Mais parce que élevée par un couple d'instituteurs au fin fond de la Dordogne, mens sana in corpore sano, ça, c'était quelque chose de fondamental. Et si on voulait s'en tirer, c'était que par le mérite. Alors, elle aurait pu aussi ne pas être là pour une autre raison, c'est qu'elle aurait pu rester devant ses fourneaux, pas tellement parce qu'elle aurait fait la cuisine à la maison, non, je pense qu'elle aurait pu ouvrir un restaurant, parce qu'elle vient de Dordogne, c'est donc dans le sud-ouest, hein, c'est la reine du foie gras au raisin et des gâteaux aux noix, et en même temps, comme c'est une grande infidèle, elle est allée picorer un petit peu plus bas dans le département d'à côté, parce qu'avec les pruneaux, on peut faire pas mal de trucs, et comme c'est une grande voyageuse, carrément, elle est allée dans la Méditerranée, et donc elle fait des tagines aux pruneaux, je vous raconte pas.
Bon bah ça va être l'heure de passer à table.
Oui.
Dominique Leglu, bonjour.
Bonjour.
Ah bah, quel tableau. Vous dirigez la rédaction de Science et Avenir, c'est pour ça qu'on vous entend souvent dans cette émission. C'est vrai tout ce qu'a dit Jean-Yves, ça vous va ?
C'est pas faux.
D'accord.
C'est pas faux. Alors, j'ai quand même oublié un truc, c'est que Dominique, une fois que ça a été une chercheuse entre le Collège de France, Oxford et le CERN pour la physique nucléaire et des particules, pan, piqué au virus du journalisme.
Alors.
Donc elle part faire la page Science de Libé. Et puis, repiquer au virus de la recherche. Hop, elle repart en fac. Et puis, l'air de rien, elle nous fait un DESS de maîtrise des armements. Alors, il y a le nucléaire, le spatial. Et à l'époque, il y avait l'anthrax. Et l'anthrax, c'était, vous savez, ce poison, en fait, qu'on essayait d'envoyer par des lettres. Et ça fichait la trouille à la planète entière. Et donc, du coup, c'est devenu une spécialiste au moins européenne, voire plus, du bioterrorisme. Elle a même publié un rapport et un bouquin, La menace bioterrorisme, la guerre à venir, c'était en 2002, c'est ça ?
C'est ça.
Chez Lafont.
Alors on va revenir un petit peu au début.
Quand je vous disais le portrait global.
Bah d'abord, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé après votre doctorat physique, ça pour avoir le virus du journalisme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne voyez pas dans la carrière d'un scientifique ?
Alors, un scientifique, ça a l'air comme ça d'être toujours la même chose, hein, de la biologie, de l'astrophysique, de la chimie. En fait, ce sont des atmosphères très différentes. J'ai fait de la physique des particules, ce que je continue d'adorer et de regarder, de scruter à la position où je suis maintenant dans un journal de vulgarisation Science et Avenir, le CERN à Genève, le redémarrage du fameux grand collisionneur LHC.
Ça va arriver.
Ce qu'il faut voir, c'est la sociologie de ce travail. Ce sont d'immenses équipes. Je dirais de mon temps, du temps où j'ai fait ma thèse, eh bien, les papiers scientifiques étaient signés par 200 à 400 personnes, et maintenant c'est peut-être 6000. Et quelque chose en moi a résisté contre cette vie de groupe. sachant aussi que les manips, tout ce que vous avez à concevoir pour scruter cette matière, ces atomes, ces particules, ces quarks, ces choses invisibles qui circulent à toute vitesse sous Terre, eh ben écoutez, il fallait aussi avoir le sens du long temps. Comme dans c'est le sûr. Spatial. C'est-à-dire, vous faites une manip, et puis vous vous dites, bah, on aura peut-être les résultats dans 20 ans. Et quelque chose en moi était un peu pressé.
Ça, c'est le côté course à pied. Faut tomber les chronos.
Et oui, si tu veux, c'est ça. C'est le choix entre le marathon et
alors là, pour le coup, le journalisme, vous êtes vraiment... Parce que maintenant, il faut aller très vite, il faut sortir les informations très vite, il ne faut pas avoir peur de zapper. Et vous avez eu l'impression à ce moment-là que c'était plus votre tournure d'esprit.
Oui, petit groupe aussi. Chose que l'on prend en main par soi-même, parce qu'à certains moments, pas toujours, ben quand on est journaliste, parfois on est tout seul. On s'empare d'un sujet, on se dit je vais le traiter, comment ? Et puis j'ai, comme cela, fait énormément de voyages à travers la planète, où j'ai rencontré des scientifiques, dans des observatoires perdus au Chili, dans des labos dans la Silicon Valley, au Japon pour savoir comment ils allaient observer leurs failles sismiques, voir comment on faisait les tunnels entre justement différentes îles du Japon ou bien entre l'Angleterre et la France. Donc voilà, c'était ça, s'emparer d'un sujet, trouver les bons interlocuteurs et faire une expérience de vie aussi, de rencontre.
Mais pourquoi cette volonté de vulgariser ? Parce que quand on fait de la recherche, on sait que les 6000 qui vont signer le travail qui a été entrepris, bah, ce sont 6000 interlocuteurs et on est très content d'être entre soi. Là, vous êtes allé vous coltiner au grand public qui est incapable de lire le travail de recherche signé des 6000 noms.
Effectivement, je peux toujours m'interroger sur mon héritage culturel, avec des parents instituteurs, quelque chose du désir de transmission, quelque chose du passage de l'information, mais aussi de l'écriture, raconter. J'adore ça, moi. Je trouve qu'on peut créer à partir de choses parfois complexes, parfois qui apparaissent comme ésotériques, on peut raconter des histoires formidables.
Oui. Est-ce qu'il n'est pas de plus en plus difficile justement de raconter la science au fur et à mesure qu'elle se complexifie et que les thématiques progressent ?
Vous savez que nous, journalistes, avons ce qu'on appelle notre boîte à outils. Vous invitez parfois des grands spécialistes et par vos questions... Vous les poussez dans leur retranchement pour qu'ils fassent dire la petite métaphore éclairante ou qu'ils vous sensibilisent tout simplement à un problème. Donc, oui, bien sûr, la complexité fondamentale de toutes les recherches, c'est-à-dire la façon que nous avons de les réduire, de les caractériser comme c'est de la physique ou c'est de la chimie ou c'est de la climatologie, tout ça est réducteur. Mais, bon... il faut en faire passer les éléments fondamentaux. C'est ça aussi notre boulot de journaliste. Hiérarchiser, choisir. Et puis choisir aussi ce qui va faire résonance chez l'auditeur ou chez le lecteur. C'est une jubilation, ça aussi.
Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, donc on va dire une dizaine d'années plus tard, vous avez de nouveau le virus de la fac, des études, un DESS, partir sur le bioterrorisme. Là, c'était pas du journalisme, parce que j'ai eu l'occasion à cette époque-là de vous interroger. Le bioterrorisme, ça vous a chevillé au corps. Vous n'êtes pas devenu par hasard une spécialiste reconnue de ce domaine-là.
Quand vous faites des études de physique nucléaire, ou peut-être même de physique en général, il y a toujours un moment, me semble-t-il, où vous vous posez des questions, allez, on va lâcher les grands mots très à la mode, des questions éthiques. J'avais appris tout ce qui est de l'ordre du fondamental, comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que ces atomes ? Qu'est-ce que ces quarks ? Qu'est-ce que c'est que la lumière ? Qui sont ces grands esprits qui ont réfléchi là-dessus ? Hein ? Vous côtoyez Einstein, Marie Curie, c'est formidable. Mais je dirais, vous êtes du côté de la face lumineuse. Et il y a la face sombre. Et je pense que mon travail de journaliste, au fur et à mesure, m'a dirigé aussi et m'a permis d'affronter cette façon. Parce que quand vous êtes dans le système, généralement, on n'aime pas scier la branche sur laquelle on est assis, à moins d'être particulièrement masochiste. Or, je reviens à la physique, science reine du XXe siècle, elle a commis quoi ? La bombe atomique. J'avais envie de revenir à ses fondamentaux, comprendre comment c'était fait, comment c'était pratiqué la course aux armements, qu'est-ce qu'on avait mis au point à l'époque. Mais je vous confie aussi en même temps qu'il n'y a pas eu donc que la physique et le nucléaire, il y a eu la chimie, il y a eu la biologie. Et j'ai brusquement découvert qu'il y avait eu toute une réflexion, mais souvent très peu connue, sur les armes biologiques. Et ça m'a intéressée.
Micro-méga, troisième partie sur RFI. Notre invité multifacette est donc Dominique Leglu, qui dirige la rédaction de Science et Avenir, Jean-Yves.
Ah oui, et quand nous avons préparé cette émission avec Dominique, j'ai adoré, là je m'engage, sa vision de la technologie et du mésusage peut-être qu'on peut en faire. Alors, on était parti d'un exemple que j'ignorais, c'est cette histoire d'ordinateur qui est capable de donner des ordres en bourse en une micro ou une nanoseconde, enfin un truc de folie.
Effectivement, c'est un problème qui agite Wall Street en ce moment et que je trouve... Je ne vais pas dire seulement symptomatique. Je trouve ça absolument extraordinaire. Vous avez toute l'intelligence humaine qui a été mise au service de la création de grands ordinateurs. Ces grands ordinateurs, eux-mêmes, faits justement pour gérer soit les programmes spatiaux, soit les réactions de bombes atomiques, etc., etc. Et maintenant, les ordinateurs, mais aussi ce qu'on leur met dans le ventre, c'est-à-dire des logiciels qui les pilotent, qui eux-mêmes sont créés par les hommes, parviennent à fabriquer des machines qui sont capables de scanner à une vitesse incomparable, disons qu'ils fonctionnent à la microseconde, c'est pas beaucoup.
Ça va vite, oui.
Ça va quand même
surtout
très vite.
Surtout pour donner des ordres en bourse, hein, voilà. Parce que ça veut dire, allô, oui, tiens, ton truc, il est à tel prix, donc je vais l'acheter, voilà. Et dans la microseconde qui suit, il aura fait ça, il aura donné l'ordre, et il va être capable de le revendre. Donc oui. c'est la folie dans le système, quoi.
Oui, et justement, c'est ça qui pose un problème, c'est-à-dire les banques ou les groupes qui ont su se doter de cette machine avec des capacités aussi faramineuse, d'une certaine façon, eh ben, les autres sont, excusez-moi du mot, totalement rétamés. C'est-à-dire que le donneur d'ordre classique, qui déjà travaillait avec ses ordinateurs, il est... Alors là aussi, c'est marathon et sprint. Hein.
Mais ça veut dire que la crise financière dont on parle sans arrêt, elle est aussi liée à ce dévoiement de l'usage de la technologie. Il n'y a pas simplement, parce qu'en ce moment, on est en train de nous raconter, on va prendre des mesures, etc.
Mathématiques, mon cher, aussi, puisqu'il y a eu des formules mathématiques qui nous ont un peu embarqués.
Et donc, c'est le mésusage de l'intelligence humaine, en fait.
On peut dire ça comme ça. Écoutez, il y a des groupes qui font donc cet usage. Et ensuite, l'intelligence humaine doit mettre du juridique là-dedans pour faire tenir la société. Ce qui est très symptomatique, me semble-t-il, c'est qu'à un certain moment, et c'est vrai dans plein d'autres domaines, vous avez une avancée faramineuse des technologies qui précède tout le reste, précède même la réflexion qu'on peut en avoir. Par définition, une réflexion, ça demande d'avoir vu et de se poser des questions dessus. Et là, ça va trop vite. Et du coup, vous avez des groupes potentiellement qui sont capables de lancer en quelque sorte l'usage de cette technologie avant que d'autres l'aient perçue. Et vous vous doutez bien que les politiques en aient une idée à peu près claire. C'est bien pour ça que nous, journalistes, nous sommes utiles parce que justement, on fait la passerelle, on essaie d'expliquer. C'est ce qu'on essaie de faire ici.
Mais cette vision-là, on peut l'utiliser aussi par rapport à la crise climatique, la biodiversité qui n'est plus respectée. Est-ce que c'est aussi, en fait, oui, c'est un développement abusif ou incontrôlé des technologies qui a provoqué ces déséquilibres qui nous mettent dans cette situation-là ?
Souvent, oui, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Effectivement, ce qu'il y a, c'est que il y a cette impression à des moments de décalage. Décalage du pouvoir grâce à cette technique et du savoir qui va l'accompagner. Et c'est un savoir multiple. On parlait tout à l'heure de la complexité du monde. Il faut jeter un regard éthique, mais il faut avoir compris, il faut rejeter un regard juridique, il faut rejeter un regard politique, tout ça, ça, comme par hasard, ça prend du temps.
Alors justement, puisque vous, donc, vous avez été scientifique, enfin vous l'êtes toujours d'une certaine façon, et puis donc maintenant vous faites ce travail de journalisme, et j'ai vu quelque part que vous demandez de l'audace intellectuelle aux chercheurs. Où ils en sont les chercheurs finalement? Est-ce qu'ils sont totalement dépassés, comme souvent, par leur création, comme vous l'avez expliqué, par tout ce qui s'est passé? Et puis en même temps, on a besoin d'eux de plus en plus pour résoudre des problèmes importants, d'énergie par exemple. Vous leur demandez de l'audace. Pourquoi ?
À certains moments, ça peut être plusieurs formes d'audace. Hein. Il peut y avoir l'audace pure, qui est de sauter dans un nouveau concept et d'accepter d'être rejeté quasiment par la communauté parce que vous avez introduit quelque chose de nouveau et personne ne comprend très exactement de quoi vous parlez. Bon, mais ça, c'est à l'intérieur du milieu. À d'autres moments, c'est vrai que ça peut être une audace politique, donc une dénonciation.
Faut qu'il s'engage.
Alors là, je serais partagée parce que pour s'engager, il faut avoir les outils intellectuels pour le faire. On ne s'improvise pas forcément philosophe, par exemple. On peut avoir une vision un peu naïve d'un certain nombre de choses. Ça veut dire que là, je crois que cela dépend. Ça peut dépendre aussi des âges, de l'accumulation qu'on a ou pas du savoir. Ce qu'il y a, c'est ceux dans les domaines très sensibles. Je ne sais pas, par exemple, tout le travail qui est fait dans les neurosciences, qui peuvent avoir des implications très immédiates, comme la création de nouveaux produits qui vont influencer les comportements des gens. Je trouve vrai bizarre qu'on s'engage dans ces domaines-là et que l'on fournisse pas un effort intellectuel supplémentaire pour comprendre le monde dans lequel on vit, les réseaux d'influence.
Les implications.
Mais parfois, c'est très difficile, parce que l'implication, par exemple, revenons aux mathématiques, qui ont l'air parfois d'être hors tout, d'être pure création intellectuelle, eh bien on découvre qu'elle fonctionne très très bien dans telle ou telle situation. Donc parfois, c'est difficile, mais je pense que c'est des formes là aussi d'aller-retour. Mais d'une certaine façon, ce que je redouterais, c'est qu'il y ait des gens qui soient des sortes de super techniciens, qui sachent, osons la métaphore, qui deviennent quasiment des robots. Restons des humains. Et l'audace, parfois, c'est d'être humain.
Dominique Le Glu, c'est en 2002, je disais tout à l'heure, que vous aviez dit que la menace bioterroriste, c'était la guerre à venir. Huit ans plus tard, vous pensez toujours que c'est la guerre à venir ?
C'était très prudent comme titre, hein. Ça ne donnait pas d'échéance.
Non, non.
Mais il est clair que le domaine de la biologie, devenant de plus en plus accessible, imaginez-vous qu'à une époque, allez, on va lâcher des dates, rappelez-vous peut-être qu'en 1975 avait eu lieu ce qui s'est appelé le moratoire ou la conférence d'Asile Omar. C'était les généticiens de l'époque qui s'interrogeaient, qui étaient inquiets sur leur propre capacité. Mais à l'époque, c'était quelques personnes qui pouvaient avoir, parlons simplement, les machines qu'il faut pour faire ce qu'il y avait à faire, les éprouvettes nécessaires et les ordinateurs nécessaires. L'accessibilité à ces connaissances est devenue bien plus grande. Donc toute la question, c'est comment contrôler cette connaissance, comment contrôler ce que l'on écrit dans un certain nombre de revues, comment contrôler la manipulation d'un certain nombre de produits, etc. C'est cette accessibilité. Mais je pense que ce n'est pas que pour ce domaine. Vous savez très bien qu'actuellement se font des interrogations qui, à une époque, étaient traitées de paranoïa absolue, d'accès à des matières nucléaires, non pas pour faire une bombe atomique, mais pour faire ce qu'il est convenu d'appeler une bombe sale. Donc ces questions-là, nous avons créé, nous les humains, un certain nombre de produits, et nous continuons de les créer, qui sont dangereux. On ne peut pas être naïf. Il faut avoir les yeux et les oreilles pour surveiller cela sans trop de paranoïa.
Développons nos yeux et nos oreilles. Merci Dominique Le Glu pour ces minutes sur ces thèmes. Merci Jean-Yves.
Très multifacette en effet.
Ah oui, ça, hein, n'est-ce pas ? Riche, hein ? Mais on va la retrouver bientôt sur Micromégam avec la casquette. Oui. Bonjour, je suis journaliste.
Micromega a été réalisé par Cécile Bonici et mixé par Thibaut Deschamps. Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, avec un autre invité multifacette.
Eh oui, ça sera vraisemblablement une dame, encore une fois.
Ah bah tant mieux. On fait un saut quantique jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouve sur les sites RFI et Facebook dans quelques instants. La synthèse de l'actualité.